France Inter, franceinter.com.
À Paris, il y avait 274 cafés-concerts et chaque année 12 000 nouvelles chansons. On admirait les pétomanes, les ventriloques, les comiques troupiers et les divas en saindoux. C'était ça, la belle époque. Raymond Queneau. Deux mille ans d'histoire. Un peu avant 1830, un cafetier des Champs-Élysées, M. Morel, eut l'idée d'installer dans son établissement un chanteur et un petit orchestre pour attirer les clients. La formule eut un tel succès que deux autres cafés l'adoptèrent et c'est ainsi que les Ambassadeurs, l'Horloge et le Café du Midi sont devenus les trois premiers cafés-concerts de Paris. On les appelait alors des cafés chantants, et M. Morel n'imaginait pas que son invention allait bouleverser la vie des Français. Pendant 100 ans, à l'Eldorado, au Bataclan, au Moulin Rouge ou à la Gaîté Montparnasse, des ouvriers et des princes, des demi-mondaines et des artistes venaient y voir et entendre les premières grandes vedettes de la chanson française. Elles s'appelaient Teresa, Yvette Guilbert, Paulus, Aristide Bruand ou Mayol. Et si aujourd'hui les cafés-concerts ont disparu, si on a oublié leur nom, on se souvient encore de leurs chansons.
Le samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien se dit à sa femme comme des sœurs, se fait le café-concert. On va filer bras-dessus, aux galeries à Vinceau. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens pouboule, viens pouboule, viens. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Viens pouboule, viens pouboule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
Alain Veil, bonjour. Vous savez très bien, vous qui êtes un spécialiste des cafés-concerts, qui chantait ?
Bien sûr.
C'était Mayol. En 1905, il y a quand même 103 ans, hein, Mayol qui est une des plus grandes vedettes de ces cafés-concerts auxquels vous avez consacré avec François Caradec un très beau livre, publié chez Fayard, Le Café-Concert, 1848-1914. Mais vous vous rappelez aussi quand même, Alain Veil, qu'on n'a pas attendu la révolution de 48 pour inventer ce qui est devenu le café-concert.
Non, bien sûr, ça ne s'est pas, d'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, fait du jour au lendemain. Mais disons, quitte à choisir des dates, on commence à 1848, bon, bah, c'est une révolution, et 14, c'est la guerre de 14, comme son nom l'indique, qui va marquer effectivement le déclin de cette forme de spectacle, qui va être petit à petit mangée par le cinéma, et par ce qui devient le musical.
Mais qui a commencé donc avant 1848, on le voit d'ailleurs, on en voit des reproductions dans votre livre, c'est, les cafés-concerts, ça se passait à l'extérieur, c'était donc des cafés ou des établissements des Champs-Élysées, puis il y avait une espèce de kiosque dans lequel on voyait un orchestre et des chanteurs.
Oui, mais il y a aussi eu des goguettes dans des caves, ceci en intérieur, parce que le climat n'a pas tellement changé. L'important, c'est que un certain nombre d'éléments ont permis au café-concert de se développer, éléments dus à un assouplissement, un combat continuel avec la censure, mais également avec la destruction des privilèges qui remontaient à l'ancien régime.
Oui, il faut le rappeler. Au début, il y a eu, vous le rappelez, trois grands cafés-concerts. Nous sommes au Second Empire. Il y a eu l'Eldorado, l'Alcazar, le Bataclan. Alors là, cette fois-ci, c'était à l'intérieur. Ça se passait dans de grandes salles. Mais alors, ils étaient bloqués par un privilège qui était celui du théâtre et une législation, en fait, qui était destinée à protéger les théâtres à la veille.
Tout à fait. C'est une législation qui remontait à l'ancien régime et qui n'avait pratiquement pas été touchée. Et qui vaut aussi d'ailleurs pour la musique, c'est-à-dire quand Madame Corneli, qui est une tragédienne, a le culot de porter sur la scène d'un café-concert un costume, eh bien elle enfreint lourdement une loi qui punissait très sévèrement les établissements. Alors évidemment, un café-concert sans costume, ça fait qu'au début vous avez la corbeille qui sont des dames que M. Raymond Queneau, à juste titre, considère comme assez grosses généralement, car quand on voit les reproductions, on ne peut pas dire que c'était toutes des prix de beauté. Et puis, il y en a une qui se lève de temps en temps, qui vient chanter, et puis qui se rassied. Alors, effectivement, un spectacle sans costume, c'est monotone, et puis ça interdit le comique troupier qui doit être en habit militaire. Mais j'ajoute qu'il y a une autre évolution, et là, elle est due à Offenbach et ne touche pas directement notre sujet, c'est qu'au départ, le nombre de musiciens était très limité, et ça, c'est Offenbach qui fera voler en éclats cet autre privilège hérité de l'Ancien Régime et qui permettra d'avoir des vrais orchestres.
Oui, on ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas porter de perruque, vous l'avez dit, on ne pouvait pas se costumer. Interdit aussi de dire un texte non chanté. Alors justement, cette fameuse Madame Cornélie qui venait de la Comédie Française se met un jour à lire du Racine à l'Eldorado et là, le privilège du théâtre saute en 1867. C'est ce que vous appelez la libération des cafés-concerts.
Dès lors, Paris devint l'enclume des renommées. Qui n'aura pas chanté, dansé, parlé devant Paris, n'aura ni chanté, ni parlé, ni dansé.
Les canards tyroliens, chantés par ses raisins dans la chatte blanche au théâtre de la Gaîté.
Quand les gamins s'en vont par deux, c'est qu'ils ont à se causer entre eux. Les passants n'y comprennent rien, mais eux, ben là, ils se comprennent pas. Ils disent comme ça de jolis rien. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Quand les canards qui reviennent. Idiolo, 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 idiolo.
Alors le son n'est pas parfait, vous l'avez entendu, mais nous avons des excuses. C'est un enregistrement de 1898, hein. C'est quand même pas mal, ça fait 110 ans, les canards tyroliens, et qui était chanté, non pas en 1898, mais en 1869, par la première vedette du Café Concert, la première idole de la chanson française, mais tout le monde a oublié son nom aujourd'hui, c'était Madame Teresa.
Absolument, Madame Teresa est la première chanteuse. Bon, vous avez entendu cette chanson, ça n'était pas...
Oui, je ne sais pas si elle aurait le même succès aujourd'hui qu'à l'époque.
Non, mais globalement, le café-concert, et il y a eu... Enfin, le nombre de chansons qui ont été créées est absolument gigantesque. Globalement, c'est de ce niveau-là, c'est-à-dire de la gaudriole, de la grosse farce, des jeux de mots... douteux dans le meilleur des cas, et ça marche
parfois
très bien.
Parfois coquin, hein, aussi.
Oui. Oui, alors énormément de gaudrioles, énormément de sous-entendus, énormément de pince-fesses. C'est un... Bon, donc c'est... Les canards tyroliens sont un bon exemple, et Teresa est la première. Bien simplement, pourquoi est-elle la première grande vedette de la chanson française? C'est la première à toucher des cachets gigantesques, à être réclamée dans les salons les plus huppés et à mener un train d'enfer.
Ah, c'était pas pour sa beauté, hein, c'était Edmond Goncourt qui disait « Elle avait une lippe d'homme et une tête de veau ». Effectivement, on en voit d'ailleurs, on voit quelques-uns de ses portraits dans votre livre à la veille. Bon, c'était pas une splendeur.
Non, elle était assez laide. En plus, on la soupçonnait d'être plus ou moins péripatéticienne à ses heures et également... homosexuelle.
Ouais. Alors, elle était célèbre dans un genre, car il y a beaucoup de genres au café-concert, c'était la romancière comique. Mais alors, il y avait d'autres genres que vous citez, les diseuses comme Yvette Guilbert, chantant le fiacre, les comiques idiots comme Dranem avec le trou de Monquet, on parlait de jeunes mots, il y en voilà un, les chanteuses de valse comme Paulette Darty, Je t'ai rencontré simplement, le comique troupier aussi avec Paulin et les Troufions, les chanteurs à voix comme le compositeur du Temps des Cerises, et enfin, où l'an de la défaite de 70, puis 1870, eh bien, il y avait aussi des chansons patriotiques comme celle-ci, chantée en 39, mais qui date de 1871.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu urbaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
À Chiacra des Trottinons, jaune avec un cocher blanc.
Y'a un qui dans ma rue, y'a un trou dans mon pied.
Chansonnette militaire comique chantée par Paulin.
Nous sommes les pauvres troupions et dans la poche nous parlerons.
Il ne se le fait pas dire deux fois et se précipite sur le bourgeois. C'est les petits grands et droits, ils nous remplacent sur le piton. Si Nicolas Agnon y quitte son pognon, c'est assez vite.
Quand nous chanterons le temps des cerises et Guérassignol et Merle Macaire seront tous en fête.
Étonnant ce pot-pourri de tous les grands succès du Café Concert. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces chansons sont restées. On en fredonne beaucoup, ce temps des cerises, Dieu sait s'il est encore connu, célèbre. Et il vient des cafés-concerts, on l'ignore, tous ces grands succès le sont restés alors qu'on a oublié le nom de ceux qui les chantaient, et dans des genres très différents, hein, Alain Veil.
C'est-à-dire que sur des dizaines de milliers de chansons, il y a quand même là le premier noyau de la chanson populaire qui s'est quand même transmise encore jusqu'à nos jours, même si les gens, bon, le refrain leur est familier, mais oui, ils pourraient pas chanter beaucoup plus de deux ou trois vers.
Alors souvent aussi des refrains ou des chansons très politiques. Je pense, vous le citez, on vient de l'entendre, elle est devenue politique, le temps des cerises. Mais c'est devenu le chant de la commune.
Oui, mais le café-concert est également un endroit où on traite de toutes choses, des faits divers, de la politique, de l'actualité. Quand c'est l'exposition universelle, ça peut être la visite du tsar à Paris, ça peut être n'importe quel incident encore plus mineur, immédiatement, parce que les chansons se faisaient pratiquement toutes sur la même trame musicale. Il y a des compositeurs qui grattent et 2, 3, 4 jours après, la chanson est interprétée dans un, puis si elle marche bien, dans plusieurs cafés-concerts.
Alors très lié, vous le dites, à la politique, il y en a une autre qu'on n'a pas encore entendue, qui était célèbre à l'époque, c'était celle où à l'époque du général Boulanger, qui en 1889 avait voulu ou tenté de renverser la République. Il était ministre de la guerre et profitait de sa popularité lorsqu'en 1886, tous les Parisiens étaient venus l'acclamer à la revue du 14 juillet, qui se passait à l'époque non pas sur les Champs-Élysées, mais à Longchamp, où Boulanger était accueilli triomphalement.
Ah, il est merveilleux.
Vous avez pu le voir?
Non. Et vous avez pu le voir?
Non, mais je le connais.
Ah, vous le connaissez?
Oui. Vous voulez le voir?
Ah oui.
Venez.
Bravo, mon général. 125 000 personnes, c'est un record.
Malgré son triomphe, il a l'air soucieux.
Que lui manque-t-il?
La volonté de répondre à l'appel de ses amis et de prendre le pouvoir.
Gaisés, contents, nous marchions triomphants en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, l'on foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et l'on se met à saucissonner. Tout à coup l'on crie, vive la France, craignez, c'est la rue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs, et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur Kemley, pompier, acclame ses fiers troupiers, ma tendre épouse bat des mains, quand défilent les Saint-Cyriens, ma belle-mère pousse des cris, en remuant les faillis, moi je ne cessais de crier, vive le général Boulanger.
Et c'était Paulus, en revenant de la revue c'était le 14 juillet 1886, le général Boulanger. C'était aussi populaire d'ailleurs que Longchamp, les cafés et concerts. Quelle était la clientèle de ces établissements, Alain Veil?
Elle était extrêmement variée, parce que des cafés concerts, Il y en avait absolument de toutes sortes. Il y avait les établissements de haut luxe dans les jardins des Champs-Élysées, mais il y avait à Paris, sur le boulevard Strasbourg, il y avait la Scala et l'Eldorado. La Scala, par exemple, était extrêmement prestigieuse. Le public y venait vraiment pour voir le top du top. Et, par exemple, Miss Tinguette, elle a démarré en face à l'Eldorado, qui était un autre très grand café-concert, mais elle aurait rêvé de commencer à la Scala. Seulement, elle était considérée par la direction comme un petit peu trop vulgaire. Et puis, alors ensuite, il y a simplement le fait qu'il y a les très grands établissements parisiens, bon, qui pouvaient se payer et à des cachetons qui, à l'époque, étaient extrêmement élevés, les plus grandes vedettes, mais le même répertoire était repris dans d'autres quartiers. Et puis, en province, en banlieue, dans les quartiers populaires, entre les Folies Belleville et la Scala, on a la différence qui peut exister entre un énorme théâtre rempli d'or, de lustre, avec un grand orchestre et une scène qui permettait même de faire des ballets et des opérettes, et ce qui est l'équivalent d'un petit beuglan avec un piano, peut-être un violon et une estrade, pour que des gens viennent chanter.
Les beuglans, c'était, oui, les cafcons malfamés, disons. Alors, il y avait, vous avez évoqué ces grands, grands artistes. D'abord, ils ne débutaient pas forcément à ce statut tout de suite.
Oh, jamais.
Mais on a entendu Paulus. Parlez-nous un peu des plus grands. Mayol, par exemple, qu'on a entendu au tout début, qui est certainement un des plus célèbres.
Mayol, qui est un des plus célèbres et qui est un de ceux dont il nous reste le plus de traces, car il est quand même arrivé assez tard. Mais alors, pour répondre à deux questions que vous me posiez, ils ont tous débuté comme ils ont pu, ils se sont tous fait siffler à leur début, notamment à l'Alcazar de Marseille, qui était la terreur de tous les chanteurs.
Il y avait des
débutants.
Cafés-concerts en province, hein, ce n'était pas seulement parisien, vous le précisez.
Ah oui,
bien,
oui. Alors, oui. Il y a Marseille, Toulouse, capitale du Bel Canto, oui, dans toutes les grandes villes, il y avait des grands cafés-concerts, mais Paulus dit le Gambillard, a eu un succès absolument prodigieux. Il est un peu l'alter ego de Teresa, c'est-à-dire que ça a été la première grande vedette masculine qui a, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, tenu véritablement le sommet de la hiérarchie et qui a gagné des fortunes qu'il a dépensées dans des investissements absolument déplorables, ce qui fait qu'il a fini assez modestement, mais c'est quelqu'un... Je veux dire, quand on voit le statut des grandes vedettes d'aujourd'hui, il n'avait rien à lui envier.
Et puis alors, il y en a un dont on retient évidemment le nom et qui se produisait au début dans des beuglans, le Chat Noir, le Mirliton par exemple, et où ce chanteur accueillait ses clients, disons, sans aucune espèce de ménagement, même quand ils étaient des aristocrates.
Quand on entre dans cet antre, on se présente.
Mon petit amant préféré, Henri de Toulouse-Lautrec.
Tu cherches des voix pour te présenter aux élections de Montmartre?
Qui est-ce?
Ben Aristide Bruand.
Montmartre n'aime ni les aristos ni les bourgeois. Sur cette colline inspirée, monsieur de Toulouse, on aime le rouge et la viande crue. Ça donne des forces. Ici, on se torche avec les bonnes manières. On chante la poésie de la rue. Gland vérolé, voici Nini Peau de Chien.
Elle a la peau douce aux taches de son, à l'odeur de rousse qui donne un frisson, et de sa prunelle au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. Elle est belle fille, on aime bien Nini Pochia, elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Pochia, elle est belle fille.
Et c'était Aristide Bruand chantant lui-même de ses plus grands succès. C'est un enregistrement de 1908, et il a donc 100 ans. Alors de tous les chanteurs de café et concert, Alain Veil, c'est sans doute c'est le premier nom que l'on retient, sinon presque le seul. Parce que lui, Bruand, bon, on le connaît bien encore.
On le connaît bien d'abord, je dirais, par la qualité de ses textes et de ses chansons, qui sont quand même très au-dessus des Canards tyroliens. Et puis par le personnage, il y a des personnages qui restent comme ça, avec son grand chapeau noir, son écharpe rouge et son costume de charpentier. Bruand est véritablement, effectivement, un personnage qui est encore populaire. Il l'est peut-être aussi par l'iconographie qu'il a suscité, c'est-à-dire les affiches que lui a fait Lautrec.
Voilà, et de façon générale, Lautrec, vraiment, il fait partie de la mémoire des cafés-concerts. Il a joué un rôle énorme, d'ailleurs, pour qu'on s'en souvienne. D'ailleurs, toutes ces affiches, ou presque toutes ces affiches, ou les plus connues, on les retrouve dans votre livre, Alain Veil. Son rôle pour la transmission, au fond, parce que les cafés-concerts ayant disparu, ben, on n'en aurait peut-être pas beaucoup de souvenirs s'il n'avait pas existé, bah, Lautrec.
C'est-à-dire que Lautrec a fait très peu d'affiches, mais pratiquement toutes pour ses amis du café-concert. Le divan japonais, où on voit Yvette Guilbert, Coupé et Jeanne Avril au premier plan, a été reproduit et continue à être reproduit à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est peut-être effectivement Lautrec qui fait que le café-concert et certains noms disent encore quelque chose au public. Par exemple, sur la couverture de notre ouvrage, nous avons mis une affiche de Lautrec qui est Caudieux. Plus personne ne sait qui est Caudieux, mais l'affiche de Lautrec fait que son nom existe encore.
Et puis il y avait aussi Mailleul ou encore la vedette du Moulin Rouge, la Goulue.
C'est beau ! Bravo le nabo ! Dans 10 ans, les critiques mondains et les porcs qui spéculent comprendront que tu es un génie !
Non mais t'as vu !
C'est beau !
Y a pas un Parisien qui parle pas de cette merde ! Et tu sais ce qu'ils disent ? Mais la Goulue, c'est une mémère, une grosse vache!
Non, mais t'es con ou tu fais semblant de l'être? Avec cette affiche, le monde entier est au pied de la Goulue! Prince de Galles est là pour te voir danser, et grâce à quoi? À cette affiche, poufias!
Cette affiche, c'est l'art nouveau, c'est la réclame! Le musée descend dans la rue! Et ça rapporte du pognon!
Allez, 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 allez!
C'est fort, la réclame!
C'est parti, mes jolis!
Oh, Lautrec! Venez!
Qu'est-ce que tu fous? Tu pars avant le cancan?
La fleur des fleurs du pavé de Montmartre! Le quadrille! La môme fromage! Mini patte en l'air, grille d'égout! La Goulue! Et le phénomène, mon marfroi, Valentin le désossé!
Alors, on vient de l'entendre, on ne faisait pas que chanter dans les cafés-concerts. On dansait, on dansait le cancan, on voyait Nini Patte en l'air, Grille d'égout. Elles avaient des noms absolument extraordinaires.
Oui. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire...
Alors, justement, là, c'est le musical, c'est ce que vous voulez dire.
Non, c'est-à-dire que là, on est dans le bal du Moulin Rouge. Or, le Moulin Rouge avait plusieurs salles.
Mais vous le citez longuement dans votre livre, Alain Veil, le Moulin Rouge, comme café-concert.
Bien sûr, mais c'est une salle... On pourrait dire polyvalente, le Moulin Rouge. D'abord, c'est un endroit énorme. Il y a en même temps un éléphant dans le jardin où s'est produit le pétomane. Il y a le bal du Moulin Rouge où se tient le quadrille. Et il y a une salle dans laquelle on donne le spectacle.
La revue, et c'est plus le café-concert.
Ça devient la revue à ce moment-là. Dans le cas du Moulin Rouge, oui, très précisément. Et dans le cas de tous les grands établissements, il y a un glissement qui fait que petit à petit... on arrive à un enchaînement de numéros, qui étaient donc tous les divers types, les gommeux, les gommeuses, le comique troupier...
C'était quoi les gommeux et les gommeuses ?
C'était des gens qui s'habillaient de manière totalement excentrique et qui, en règle générale, étaient plus intéressants à regarder qu'à entendre. C'est-à-dire, c'est là qu'un grand nombre de cocottes ont commencé et à dire et à réciter ou chanter quand elles y arrivaient des inepties... généralement à double entendement, histoire, il y avait beaucoup plus à regarder qu'à entendre.
Oui. Alors ça, c'était donc plutôt, c'était les revues. Quelle différence aussi entre le café-concert et le cabaret ? Le Chat Noir, par exemple, était au début un café-concert, on appelle ça un cabaret.
Non, ça a toujours été un cabaret.
Un cabaret,
un cabaret, alors ça, c'est...
Parce que d'abord, quoi, c'est un chanteur, des gens qui boivent un verre, donc par conséquent, c'est un café-concert en principe.
Non, c'est petit... Il y a justement un piano et une estrade pratiquement au maximum. Il y a des chansonniers, c'est-à-dire qui sont des gens qui viennent interpréter eux-mêmes leur œuvre. Et on y présente des tas d'autres choses, comme des théâtres d'ombre, les fameuses projections du Chat Noir qui avaient été faites par Henri Rivière. C'est donc radicalement différent. C'est, de toute façon, c'est un théâtre de poche, le cabaret. Et ce sont généralement les auteurs qui viennent interpréter leurs œuvres. Alors que le café-concert, eh bien, c'est une scène qui peut être plus ou moins grande, mais où viennent, eh bien, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des comédiens. Et la taille des établissements grandissant, on va vers des spectacles de plus en plus sophistiqués. C'est ce qui amènera la revue qui prendra petit à petit une place de plus en plus importante dans le spectacle.
Alors qui ont continué ces revues alors que le Café Cancer proprement dit, il est mort, c'est le sous-titre, enfin c'est le Café Cancer 1848-1914, c'est le titre de votre livre Alain Veil avec François Caradec. Au fond, une victime de la guerre de 14, pourquoi est-il mort?
Là, il y a aussi énormément de raisons. La première, c'est justement la revue de musical qui s'impose. Musical, on reprend là le terme anglais, une revue qui implique des girls. Il y a des décors de plus en plus importants qui interdisent pratiquement de faire autre chose qu'un grand spectacle. L'arrivée du jazz qui fait que la musique va changer. Et puis pour ce qui est des petites salles, dont beaucoup se maintiendront, n'oublions pas l'arrivée du cinéma. C'est-à-dire un grand nombre des plus anciens cinémas de Paris sont eux-mêmes l'emplacement d'un ancien café-concert.
Le cinéma qui était devenu tellement populaire que justement, beaucoup de propriétaires de café-concert ont converti leur salle en salle de cinéma. Quelle place accorder au café-concert? Encore une fois, tout à l'heure, on a entendu des tas de chansons qui, en définitive, sont connues, ont parfois été reprises par des chanteurs contemporains. Est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance, au fond, de la chanson française, Alain Veil?
C'est en tout cas la naissance du
chanson populaire, disons.
De la chanson populaire, du spectacle populaire. Et puis on ne l'a quand même pas mentionné, tout le monde s'y précipite parce qu'on peut y boire et y fumer. Aujourd'hui, non seulement on ne peut plus boire, mais on ne peut même plus fumer nulle part. Il y a quand même une très nette différence avec ces lieux de plaisir. Quel qu'en soit le niveau, quelle qu'en soit la qualité, les gens vont pour passer une bonne soirée, pour rigoler, pour boire un coup, et c'est effectivement un engouement qui touche toutes les classes de la société et qui touche de Paris et des grandes villes jusqu'aux plus petites d'entre elles.
Avant de commencer cette émission, vous m'avez même dit c'est le début du showbiz, c'est la naissance du showbiz.
C'est le début du showbiz, parce que vous avez les éditeurs qui immédiatement mettent les chansons sur petit format, mais c'est le début du disque. Et le disque, ça commence à tirer à énormément d'exemplaires. C'est le début du vedettariat, avec, comme je l'ai dit, des chanteurs et des chanteuses qui arrivent à toucher des cachets considérables. C'est donc une diffusion de la chanson qui finalement n'a pas énormément évolué. La radio est arrivée après, la télévision, mais c'est vraiment le début.
Merci Alain Veil. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, écrit avec François Caradec et vraiment formidablement illustré. On y voit tout ce dont on vient de parler. Le Café Concert, un livre publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo. Et puis également Lautrec de Roger Planchon, disponible en DVD chez Studio Canal. Et Héléna et les Hommes de Jean Renoir, disponible en VHS aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Ludovic Asselot et Arnaud Caillet, documentation et archives de la discothèque de Radio France, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Stéphanie Leroy et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche.